Vous écoutez du Trizac. Cube Radio.
Antoine Joubert est avec nous, chroniqueur automobile pour le Guide de l'auto. Monsieur Joubert, bonjour.
Bonjour.
Antoine, faut que je te raconte un truc bien vite, là. Hier, je vais au Maille Champlain me faire coiffer, tu sais, mes 22 poils sur la tête. Puis, dans le stationnement, il y a une femme qui arrive avec sa BMW, électrique, là, mais je pense hybride, tu sais. Puis elle, elle essaye de gosser la borne. Puis là, elle vient d'acheter sa voiture, puis elle a une petite fille avec elle, là, de 3 ans à peu près, là, sur la banquette arrière. Là, elle a son portefeuille dans les mains, et elle vient de l'acheter à Saint-Jean-sur-Richelieu un peddler de chars usagés. Et le peddler de chars usagés l'a envoyé sur le chemin avec sa BMW sans lui expliquer comment s'abonner à Flo, comment avoir une carte, comment faire pour charger sa voiture électrique. Ouais. C'est quand même aberrant, ça.
Ben, c'est quand même aberrant. C'est sûr que, de façon générale, tu sais, t'achètes un véhicule, tout dépendant à qui tu vas l'acheter, même chez des marchands de véhicules neufs, de moins en moins, on fait ce qu'on appelle des walk-around ou des présentations qui sont dignes de bien informer le client. Parce que on le sait, là, on le voit dans des conseils. Il y en a qui vont prendre le temps, mais il y en a d'autres, c'est teint. On part avec le véhicule, puis on passe à un autre appel. Puis c'est sûr qu'aujourd'hui, les véhicules, c'est de plus en plus complexe. Il faut savoir comment ça fonctionne. Il y a beaucoup de gens qui font la transition actuellement d'un véhicule conventionnel à un véhicule hybride ou électrique, qui ne connaissent pas le mode de fonctionnement de ça. Puis je trouve ça intéressant que tu m'amènes sur ce sujet-là parce que pour moi, ça demeure un irritant de devoir t'abonner à 6, 7, 8 réseaux de bornes de recharge pour pouvoir faire le plein d'énergie. Je veux dire, tu sais, quand tand
vas chez Ikea,
conventionnel, que t'arrêtes chez Esso, chez Shell, chez Petro-Canada,
ben
c'est
oui.
Le même mode de fonctionnement, t'as pas besoin d'un abonnement X. Mais là, t'as besoin d'un abonnement à Flo, t'as besoin d'un abonnement à circuit électrique.
C'est ça.
Il y en a un paquet comme ça. Je me trouvais tout récemment dans la région de Saint-Amable sur la Rive-Sud. Il y a aucune borne de recharge du circuit électrique dans cette ville-là. Il y a une seule borne de recharge à l'hôtel de ville. Je n'étais pas abonné à ce réseau-là. Donc, étouffe-toi, mon homme, arrange-toi avec tes troubles. Fait que, tu sais, ça, c'est un irritant. Ça serait intéressant qu'on puisse avoir, et là, je rêve en couleur, évidemment, parce que tout le monde veut tirer profit, chacun de leur côté, mais ça serait intéressant de pouvoir avoir une carte qui te permet d'être abonné à tout.
Moi, je comprends pas. Antoine, je comprends pas qu'Hydro-Québec gère pas ça. Tu sais, une carte, puis en plus, les profits vont retourner à la société. Mais tant qu'à avoir, comme tu dis, là, 3-4 cartes d'abonnement, moi, j'en ai 2. À un moment donné, je suis allé chez Ikea, puis là, c'était un autre borne. Là, tu dis, ah, ben là, c'est du niaisage, là, ça finit plus.
Mais évidemment, tu sais, c'est la moindre des choses que t'expliques aux gens. Ben, faut que tu t'abonnes à un réseau. Je pense que le plus logique au Québec, c'est de s'abonner d'abord au circuit électrique du Québec.
Ben oui.
Mais,
Antoine, là, si t'es vendeur, pis t'es consciencieux, pis t'as une femme qui est devant toi avec une petite fille sur la banquette arrière, il me semble que tu lui, tu sais, personne n'achète une voiture le jour même. Là. Il y a toujours des délais, il y a les papiers à remplir. Tu sais, souvent, tu pars jamais avec. Là, faut qu'il passe à travers, en théorie puis en général. Mais il me semble qu'il aurait pu lui dire, commandez-vous tout de suite une carte, là, puis c'est gratuit, commandez-vous une carte, puis mettez de l'argent là-dessus si vous partez avant de partir avec la voiture. Il me semble.
Absolument. Puis expliquer comment ça fonctionne. Parce que tu vas avoir une carte entre les mains, tu sais pas nécessairement comment ça fonctionne.
Ben
il y en
oui.
a qui savent même pas comment ouvrir le panneau pour recharger le véhicule.
Ben oui.
Moi, j'ai déjà vu ça, là.
Ben oui.
Des gens qui sont partis, un type que j'ai rencontré avec un Audi e-tron, ne savait pas comment ouvrir son panneau. Puis il y a des véhicules que c'est pas nécessairement évident. T'es propriétaire d'une Leaf, tu le sais toi-même. Le panneau, il est où? C'est même pas évident esthétiquement.
Ouais.
OK. Ben, tu sais, si tu pars avec ton auto et tu le sais pas, bon, tu vas me dire que c'est un cas isolé, là. Mais la majorité des gens, et surtout, je te dirais, les acheteurs de véhicules électriques sont peut-être un peu plus analytique, un peu plus informé que la moyenne des acheteurs de véhicules. Donc, souvent, on va être au courant, on va être au fait de tout ce qu'il faut faire pour ça. Mais, effectivement, tu achètes un véhicule, tu sais pas trop quoi faire avec. Tu me parles d'une BMW, c'était-tu une petite i3? C'était
oui.
Une 100% électrique?
Non, c'était une 3 avec une partie essence.
Le prolongateur d'autonomie.
C'est ça.
Bon, écoute, tu vends ce véhicule-là, c'est quand même un véhicule hors norme, là.
Ben oui, explique-le.
Qui est peu conventionnel. Ben c'est oui. Effectivement un minimum que d'informer le client. Là, on s'entend là-dessus.
Il me semble.
Ben oui.
Bon, le budget, toi, est-ce que ça t'a fait sourciller, cette nouvelle taxe?
Est-ce que ça m'a fait sourciller? Je trouve juste qu'on taxe. Oui, là, on va taxer les plus riches, puis c'est correct sur le plan collectif, mais il y a tellement des façons plus logiques d'aller taxer les automobilistes. Tu sais, moi, si tu veux taxer les automobilistes, tu vas aller chercher des sous dans la poche des automobilistes. Va donc chercher des sous en exigeant une inspection mécanique de ces tombeaux roulants qu'on a sur nos routes et qui causent des accidents avant d'aller taxer, encore une fois, un véhicule neuf. Tu sais, il y a des là on taxe des riches puis les plus pauvres ou les moins riches vont être heureux de savoir que si tu achètes un véhicule de 100 000 $ ben on rajoute un 5 000 à ce véhicule là parce que là la taxe dit que c'est 10% de la valeur totale du véhicule ou 20% de la portion passée le 100 000 $. Donc tu vas prendre celle qui est le plus avantageux pour toi. Autrement dit, si tu achètes un véhicule de 110 000 $ ben tu vas payer 10% de taxes sur la valeur totale du véhicule, mais si tu achètes un véhicule de 175 000 $ ben tu vas préférer payer le 20% sur le 75 000 au-delà des 100 000. Fait que tu sais, puis le gouvernement considère que ça va quand même rapporter quelques 60 millions de $ dans les poches là dans les poches du gouvernement. Donc c'est quand même pas rien là, tu sais. C'est beaucoup, beaucoup de sous, mais en fait, c'est pas 60 millions, excuse-moi, c'est 600 millions de $ sur une période de 5 ans. Donc, c'est quand même beaucoup de sous, mais moi, je pense qu'on y va avec la facilité. C'est juste trop facile. Là, tu sais, si on veut améliorer, on va améliorer, oui, on veut recueillir des fonds supplémentaires pour réparer nos routes pour toutes sortes de raisons, parce que les fonds sont mal gérés, puis c'est tout le temps la même histoire. Mais la vérité, c'est que ce qu'on veut aussi, c'est améliorer la sécurité sur nos routes. Puis améliorer la sécurité sur nos routes pour les gouvernements, ça veut dire mettre des limites de vitesse, des photoradars, mettre plus de forces policières pour faire suivre ce qui se passe. C'est pas la solution. Mmh. La solution, c'est d'avoir des véhicules en meilleures conditions qui vont être capables de bien réagir ou d'être efficaces si un contexte arrive. On a des véhicules qui roulent avec des pneus finis, avec des suspensions complètement arrachées, qui sont plus de freins. Tu peux avoir des pneus d'hiver. Oui, il y a une loi sur les pneus d'hiver, mais tu peux rouler avec quatre pneus d'hiver pas pareils, dégonflés de façon inexacte. Ça, c'est pas grave. Alors ça, là, les inspections mécaniques, pour moi, c'est un point sur lequel j'insiste tout le temps. Mais évidemment, ça implique un peu de bon vouloir de la part du gouvernement, de la SAC, de ci, de ça. Une inspection mécanique, ne serait-ce qu'aux 5 ans sur un véhicule, ou aux 3 ans sur un véhicule, c'est quoi? C'est pas compliqué, là. Tu vas débourser 125 $ aux 3 ans pour faire une inspection mécanique pour qu'on s'assure que tu as un véhicule qui est dans une condition adéquate. Mm-hmm. Et si jamais tes freins sont finis puis qu'on juge qu'il faut que tu les remplaces, ben tu vas être obligé de les remplacer si tu veux continuer à rouler avec ton véhicule. Parce qu'on en voit des tacos rouler sur nos routes, même des véhicules qui sont pas si vieux que ça, mais qui ont jamais été entretenus. Ouais. Tu sais, c'est pas dur, là. Tu loues une Honda Civic sur 5 ans, tu as droit à 100 000 km avec ton véhicule. Puis, rendu à 97 000 km, t'as encore les mêmes pneus sur l'auto qui sont ruinés, qui sont à la corde. Le gars dit « Ah non, moi j'étire ça au max parce que je redonne les clés bientôt. » Ben, regarde, il est plus sécuritaire ton véhicule. Tu vas devoir faire un évitement d'obstacles, tu vas devoir freiner brusquement, ton véhicule sera pas capable parce que t'as plus de pneus dessus. Mais ça, pour moi, c'est une façon d'aller chercher des fonds dans les poches des automobilistes qui est logique. Ce qu'on fait là, on taxe, on y va avec une facilité, on va chercher de l'argent dans les poches des gens qui sont privilégiés et qui s'achètent des véhicules de luxe. Correct. On peut pas être contre ça. Je veux dire, on va chercher de l'argent dans les poches des plus riches. Bon, là,
mon
opinion là-dessus.
Mais ça assure pas la sécurité sur les routes, comme tu dis. Là. Puis quand tu m'as dit qu'on était comme la poubelle de l'Amérique du Nord en ce qui a trait aux voitures usagées, ça c'est inquiétant aussi. Là.
Absolument. Ben, écoute, le Québec, c'est ça, parce qu'ici, il n'y a pas de règles d'inspection. À partir du moment où un véhicule est immatriculé au Québec, il peut rouler 15-20 ans sans jamais subir une inspection mécanique, il n'y en a pas de problème.
C'est aberrant.
Alors que si tu achètes un véhicule en Ontario, là, je pense que l'Ontario a récemment changé ses règles, mais jusqu'à il n'y a pas longtemps, chaque fois qu'un véhicule changeait de main, il fallait qu'il y ait une inspection mécanique qui soit faite sur le véhicule.
Ah oui.
Pour s'assurer un minimum que le véhicule a du bon sens. Puis tu sais, quand je te parle d'inspection mécanique, ça implique aussi les systèmes anti-pollution. Il y en a combien qui arrachent ça, les systèmes anti-pollution, les catalyseurs, on coupe ça, on enlève ça, c'est pas grave. Le catalyseur commence à être endommagé, ça coûte 900$ à remplacer. Mets-moi un tuyau à 12$, mets-moi deux tacs de soudure, puis c'est réglé. Mm. C'est plein là, de véhicules de même au Québec, là.
Ah oui.
Ça aussi, ça passe pas l'inspection, puis on cherche à améliorer l'environnement, ben c'est une façon de le faire aussi. Il faut que le véhicule respecte les normes. Fait que, tu sais, aller chercher des sous à la bonne place, mais ça demande un peu plus d'effort que juste mettre une taxe sur un véhicule à 100 000.
T'es dû pour faire une entrevue avec le ministre des Transports, hein? Ça serait le fun.
Comment ça me ferait plaisir.
Oui, ben écoute, l'invitation est lancée. Moi, ouais, si tu veux venir le faire à l'émission, là, moi je me retire, je vous laisse parler, je vous laisse régler ça entre vous deux. Mais tous ces points-là, il me semble qu'il faudrait y répondre.
Hey, puis j'ai l'impression que ça bégayerait pas mal.
Ouais, probablement. Bon,
ouais,
et rapidement, Antoine, là, un mot sur la camionnette de Hyundai qui s'en vient.
Une camionnette, un pick-up chez Hyundai, ça fait des années qu'on en parle. Évidemment, les plans ont beaucoup changé, ont beaucoup évolué depuis. On sait à quel point les pick-ups c'est populaire en Amérique du Nord. Ben Hyundai a développé le Santa Cruz, qui va être une camionnette quand même assez bien adaptée là, aux besoins réels d'aujourd'hui. Donc, on parle pas d'une grosse camionnette énergivore. C'est une camionnette façon VUS intermédiaire avec une caisse intégrée, châssis monocoque. On a la même mécanique qu'on va retrouver dans un Hyundai Santa Fe. Donc, ça devrait être raisonnable au niveau de la consommation d'essence. On s'attend à quelque chose comme 10 litres au 100 là, autour d'eux, avec une capacité de remorquage raisonnable. Véhicule qui a un sacré beau look, qui va être vraiment intéressant là sur le plan dynamique, puis sur le plan d'amener du luxe, de la polyvalence pour l'acheteur de ce genre de véhicule-là. Ça va peut-être faire changer d'avis des acheteurs de camionnettes pleine grandeur qui s'achètent ça inutilement, faute d'avoir des options, des alternatives intéressantes. Parce que même quand tu t'achètes une camionnette intermédiaire actuellement, ben tu achètes un véhicule qui est sur châssis indépendant, qui consomme quand même de façon considérable et qui coûte pratiquement le prix d'une camionnette pleine grandeur. Alors souvent, les gens, ils vont juste avec un pick-up pleine grandeur parce que c'est plus simple d'aller là. Puis il y a Honda qui depuis plusieurs années nous vend un Ridgeline, mais la disponibilité est pas évidente, puis le design fait tellement dur qu'il y a bien des acheteurs de pick-up qui font « j'aime le concept, mais je suis pas capable de le regarder », fait qu'on s'en va ailleurs. Fait que là, Hyundai arrive avec une alternative qui, pour moi, est bien intéressante. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va faire sur le marché. Je pense que c'est un premier pas vers la transformation du marché de la camionnette intermédiaire en Amérique du Nord.
Bon, ben on va attendre ça, on va voir ça. Antoine Joubert, merci. À la semaine prochaine.
Un grand plaisir.
Salut.
Bye-bye.